Donc j'en parlerai, non, je vous préviens, j'en parlerai pas, hein, vraiment. Je parlerai de tout sauf de ça, même. Je préfère encore parler de la victoire de Kristina Mladenovic au deuxième tour du tournoi de Madrid face à Lauren Davis. 33e au classement WTA. Formidable match, hein, du grand tennis. 2h27, 7-6 au troisième. Du drame, du suspense. Elle sert pour le match à 5-4. Mais l'américaine s'accroche jusqu'au jeu décisif. Elle y va, elle est là. Et dans le cri de victoire de Kristina, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, là. Ça, c'est de la victoire. Et vous voyez, tout le monde manifestement s'en fout, mais pas moi. Moi, alors vous me direz, ça n'est que le deuxième tour, attendons au moins le troisième ou la finale avant d'en faire tout un plat. Mais avec ce genre de logique, vous comprenez, avec cette tyrannie de la hiérarchie, ben on parle toujours des mêmes choses, on ne sait pas ce qui se passe au même moment, ici et là, sur la terre ocre de Madrid par exemple, sur ce court Estadio 3, qui n'est même pas le court central, Manolo Santana. Et vous me direz, dans pas longtemps il y a Roland Garros, on en reparlera, mais comment pouvez-vous un instant envisager Roland sans Madrid? Ça serait absurde, hein? Ce serait comme envisager les poupées russes sans l'auberge espagnole, ou sauver Willy 2 sans sauver Willy 1, ou des élections sont celles qui ont eu lieu 2 mois auparavant, mais ça, on n'en parle pas. Hein. Ça, je vous promets, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas.
France Inter. Augusta Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boumouan, mon invité d'aujourd'hui, à défaut de parler de tout, parle toute seule, n'y voyez là aucune offense, car je parle toute seule, c'est le titre de son deuxième spectacle, après Il faut que je vous parle, un monologue dépressif, cruel, sans limite, qui a triomphé dans toute la France et qui pose ses valises à Paris, sa plume, sa gouaille, elle les met aussi au service du cinéma, puisqu'elle sera dès demain à l'affiche du nouveau film d'Éric Judor, Problemos, qu'elle a également co-scénarisé, un film ô combien babylonien. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, elle nous le dira. Bonjour Blanche Gardin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous qui avez la langue bien pendue, de quoi est-ce que vous ne parlez pas dans votre spectacle ?
Eh bien, pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est le week-end dernier, je n'en ai pas parlé non plus. J'avais pas envie d'en parler parce que, ben, je, voilà, bon, ça n'a échappé à personne que le sujet était un peu sensible, hein, qu'il y a eu, voilà, il y a eu des cris, il y a eu des larmes, hein, il y a eu des débats en tout genre, et c'est vrai que c'était chaud, et je préférais que cette inquiétude, voilà, reste dans l'âme de chacun, que effectivement, c'était, on ne savait pas qui serait le prochain Louis la Brocante et je voulais pas en parler.
Ouais. En tout cas, quand on vous a vu samedi dernier, vous n'avez pas parlé, hein, de la question des élections, Blanche Gardin. C'est une question que je me pose. Les élections sont terminées, on a un nouveau président. Ça veut dire que vous allez changer le début de votre spectacle ou pas?
Ah bah oui, bien sûr, hein, parce que le début du spectacle change vachement au gré de ce qui se passe. Donc évidemment, bah, je ne sais pas de quoi je vais parler parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais
Louis la Brocante, j'espère.
Mais évidemment que j'en parlerai. Et puis voilà, c'est intéressant tout ce qui s'est passé malgré tout. Les gens se sont remis à parler de politique. Alors bon, le niveau des débats était nul à chier parce qu'on parle plus de politique depuis 20 ans. Donc forcément, on parle plutôt d'aqua yoga boxing et d'allergie alimentaire. Mais on va s'y remettre doucement. Hein. Mais là, c'est vrai que c'était nul, les discussions.
En voyant le spectacle, la question qui se pose pour moi dans votre spectacle, c'est vraiment ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, en fait. Est-ce que vous diriez que vous dites tout ce qu'il ne faut pas dire, Blanche Gardin ?
J'ai une petite tendance à avoir envie de pousser le bouchon.
Ouais. C'était tout le spectacle est interdit aux moins de 17 ans.
Ouais.
C'est la première fois que je vois ça, moi.
Oui, alors c'est vrai que ça se fait pas dans le spectacle vivant, mais le stand-up étant une pratique assez récente en France, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on fait du stand-up. On s'est vu, voilà, avec les humoristes, on a vu beaucoup d'enfants arriver dans les spectacles de stand-up, chose que on voit pas dans les pays anglo-saxon, parce que le stand-up se pratique dans des comédie-clubs qui sont interdits aux moins de 21 ans parce qu'il y a de l'alcool qui est en vente.
Et vous arrivez de culpabiliser devant des enfants
Ah oui, terriblement. Mais c'est terrible d'avoir des enfants au premier rang parce qu'on se dit, bah, voilà, au mieux ils s'emmerdent, au pire ils sont traumatisés.
C'est-à-dire qu'il y a un problème dans votre spectacle quand même, c'est qu'on ne peut pas vous prendre au premier degré. Quand vous dites par exemple que vous êtes pédophile, qu'il faut lutter pour que les femmes pédophiles soient reconnues au même titre que les hommes, quand vous racontez à la fois vos expériences de torture sur animaux, de sodomie et d'inceste avec une cousine, sans parler des attentats que vous traitez par le prisme d'un ex, comme quoi la roue tourne. Comment est-ce qu'on fait rire précisément avec des sujets comme ceux-là qui sont, pour certains, assez inaudibles ?
Ah ben, je pense que les sujets les plus dramatiques sont les sujets les plus drôles à traiter, hein, de toute façon, parce que dès qu'il y a du désespoir, c'est drôle, en fait.
Et on se compose un personnage aussi,
on
évidemment.
On se compose aussi, évidemment, un personnage, oui.
Quel personnage est-ce que vous incarnez sur scène, Blanche Gardin ?
Bon, je trouve que c'est quand même moi, hein, parce qu'évidemment,
bon,
je désamorce quand même, je désamorce quand je dis que je suis pédophile, je désamorce ensuite, hein, évidemment.
Désamorce, c'est quoi? Mais, qu'est-ce qu'on désamorce en disant qu'on est pédophile?
Bah, c'est-à-dire qu'on désamorce dans le sens où la monstruosité est humaine, donc de toute façon, j'aurais pu être pédophile, enfin, je veux dire, on aurait tous pu être pédophile aussi.
Vraiment?
Je serais contente de pouvoir
vraiment,
le dire.
On va partir là.
Non, on va pas aller là.
Ça vous arrive de vous auto-censurer, honnêtement?
Non, dans la mesure où je peux tirer une sorte de sens quand même des choses. Alors j'ai des anecdotes beaucoup plus dégueulasses que ce que vous avez pu entendre samedi dans les tiroirs, que je sors pas pour l'instant parce que j'arrive pas à y mettre du sens, mais dès qu'il y a un petit sens qui émerge, je me permets de raconter.
Moi, je vais vous dire, ce que je trouve inédit vraiment dans ce spectacle, c'est la liberté de ton. On en a vu dans cette émission des stand-up. Là, c'est une liberté de ton qui est sans cesse quand même menacée par le politiquement correct. Qu'est-ce que vous trouvez politiquement incorrect, vous, aujourd'hui, dans le monde, en France? Déjà, est-ce qu'il y en a du politiquement incorrect?
Oh, je pense quand même qu'on a un pays où on a un peu le droit de faire du politiquement incorrect. Après, quand on est une femme, évidemment, il y a quelque chose qui est assez jouissif à en faire parce que pour nous, c'est pas une bataille de qui va avoir la plus grosse. C'est un peu nouveau pour nous ce jeu-là, voilà, d'être sur une scène et d'y aller. Donc c'est plus un jeu. Donc
à vous entendre, ça veut dire que la scène, c'est un des derniers espaces de liberté qui existent.
Ah, bien sûr. Ah oui, la scène, c'est vrai que je pense pas qu'on ait cette liberté-là ailleurs. Ouais.
Aussi à la radio?
Oui, bien sûr, sur France Inter.
Sur France Inter, évidemment. Celle qu'on essaie tant bien que mal de censurer dans cette émission, c'est la culture et son actualité sans filtre, trash, subversive. Que se passe-t-il donc, Blanche, aujourd'hui, mardi 9 mai? Montpellier au premier rang de l'Orient, le festival Arabesque inaugure aujourd'hui la 12e édition de ses rencontres des arts du monde arabe, consacrée cette année aux grandes dames d'Orient. La manifestation propose des concerts, des projections, des spectacles de danse et même des récitations de contes pour créer des ponts entre le patrimoine artistique traditionnel et la création contemporaine orientale. On y attend notamment la danseuse envoûtante Sadia Souya, deux concerts hommage à la grande diva Warda ou le set électro du pharaon Rosma. Eywa !
Bizarre. Comme c'est bizarre.
Il y a effectivement de quoi être troublé à la Halle Saint-Pierre, car l'espace parisien propose dès aujourd'hui Grand Trouble, une expo collective, éclectique et déroutante qui consacre un nouveau mouvement de l'art contemporain dans toutes ses formes, peinture, sculpture, photo, install ou vidéo, les œuvres d'un groupe d'une quarantaine d'artistes réunis par l'amitié, dialogue pour explorer les liens qui relient l'individu au collectif, le banal au singulier, l'actualité à l'histoire, en marge de l'accrochage, des concerts, des conférences, un ouvrage chic, mi-catalogue, mi-beau livre, c'est stylé. Les marionnettes à la fête, la BIAM, Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, s'installe en Ile-de-France pour 20 jours, avec la complicité d'une trentaine de théâtres autour des questions de l'exil, du déracinement, du voyage et de l'Eldorado. La manifestation accueille près de 30 compagnies venues de toute l'Europe. On pourra voir notamment la compagnie suisse des Hélices, qui puise dans la pièce de Ionesco Rhinocéros pour tirer les fils d'un spectacle antitotalitaire, ou les Belges de Point Zéro, qui traitent du commerce des armes. Avec leur Gun Factory, on est très très loin de Guignol. Hein.
To me, acting is about the ability to put yourself in someone else's shoes. And that doesn't need to be separated into two different categories.
Jouer, c'est se mettre dans la peau d'un autre et cela n'a pas besoin d'être séparé en deux catégories différentes. Ce sont les mots d'Emma Watson. Lors de la cérémonie des MTV Awards 2017, l'actrice de La Belle et la Bête a reçu le prix non-genré de l'histoire, c'est-à-dire qui ne dissocie pas les acteurs et les actrices en compétition pour un prix d'interprétation. Une façon audacieuse de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, une belle manière de se jouer des genres. La comédienne, humoriste, scénariste Blanche Gardin, invitée de Boomerang ce matin. Vous avez l'air un petit peu déprimée, Blanche, rassurez-moi, c'est pas à cause de la culture.
Non, ah non, pas non. Du tout, très gentille la culture.
Ouais. On la personnifie dans cette émission. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, en ce moment?
Qu'est-ce qui me fait rire? Moi.
Ouais.
C'est pas moi, pas au sens, c'est pas mes vannes qui me font rire, mais c'est moi parce qu'on est... On est soi-même toujours aux premières loges de ce qu'il y a de plus drôle, en fait, parce que... Parce que moi, ce qui me fait rire, en gros, c'est quand l'espoir vient se fracasser contre le désespoir, quand l'orgueil vient se fracasser contre le mur de la honte. Quand
par exemple.
Par exemple, il y a pas très longtemps, je me suis entichée d'un acteur. Ça va être très intime ce que je vais vous raconter.
Ok, c'est bon.
Je vois un acteur dans un film et je me dis, mais cet homme est extraordinaire. Je pense que c'est l'homme de ma vie. Je tombe amoureuse immédiatement à la fois de lui, de son talent, etc. Et je me mets à fantasmer sur lui d'une manière vraiment impensable. Et j'en parle à une amie qui me dit, mais enfin, t'es scénariste, tu peux essayer de le rencontrer. Donc je trouve un prétexte fallacieux de boulot pour le rencontrer. Et il accepte le rendez-vous et je me mets une pression d'enfer pour ce rendez-vous. Je mange rien de la journée, je suis faible, je suis tremblante. J'arrive au rendez-vous, il me donne rendez-vous lui-même à 19h dans un bar à cocktail. Et je bois jamais d'alcool. J'arrive dans le bar à cocktail, il n'est pas là. Il est 19h et là, il m'envoie un texto, il me dit, désolé, j'aurai du retard, t'as qu'à commander un, je sais plus quoi, Bloody Mary Sex on the fucking beach. Et je lui dis, oui, bien sûr. Puis moi, je commande tout de suite le cocktail parce que je fais toujours ce qu'on me dit. Et le barman m'en resserre immédiatement derrière parce qu'évidemment, je le bois à la paille en 30 secondes. Il m'en resserre un autre parce qu'il va absolument me faire goûter le Wing and the Rain of a Bitch. Et donc là, je reprends un cocktail. Le mec arrive, je suis déjà ivre. Et on recommande évidemment immédiatement des cocktails. Je suis déjà incapable de raconter le projet que je voulais lui proposer. Et vous me croirez ou pas, il faisait encore jour dehors quand j'ai montré mon cul dans le bar. J'ai montré mon cul au barman et au mec. Parce que j'ai un spray de nicotine parce que j'ai arrêté le tabac depuis 3 ans. Et on discutait de ça et je disais que j'ai pris cher, j'ai pris 8 kilos en arrêtant de fumer. Et le barman me dit, ah bon, mais non. Et puis gentiment et poliment me dit juste, mais t'as pas l'air d'avoir pris 8 kilos. Et là, je me retourne, je soulève ma jupe, je monte mon cul. Et bon, 2 heures après, je suppliais le mec de me faire des enfants. C'était épouvantable. On a fait 3 bars comme ça. Et le 3e bar, blackout, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le 3e bar. Je sais que je pars ivre mort du bar, titubant, seul. Il me raccompagne pas. J'étais dans des quartiers hyper mal éclairés. Et là, dans la rue, je me fais emmerder par un type. Et je reprends conscience. Là, je me souviens pas de ce qui s'est passé, de l'échange avec ce garçon dans la rue. Le seul truc dont je me souviens, c'est que je reprends conscience juste avant de mettre ma langue dans sa bouche.
Oh.
C'est ça qui s'est passé. Et là, je fais waouh. Je pars. Le mec me laisse repartir tranquille. Je pense qu'il était soufflé. Hein. Le mec qui emmerde une nana dans la rue et qui finit par l'embrasser. Et je me réveille, voilà, toute maquillée, habillée chez moi. Et là, je me dis, c'est pas possible à 40 ans. C'est pas possible qu'il se passe encore des choses comme ça. Et ça, voilà. Et ça, quelques jours après, pour moi, c'est très, très drôle.
Bah ouais, c'est marrant. Dans votre spectacle, on voit aussi quand même un grand intérêt pour les mots, Blanche Gardin, pour le choix des mots qui est au cœur de tout travail d'écriture. Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser aux mots?
Ah bah alors moi j'ai grandi dans une famille, mon père était professeur de linguistique, voilà, j'ai grandi dans une famille d'intello, donc il y avait déjà un patrimoine culturel comme on dit.
Ça tombait sous le sens en fait.
Ça tombait un peu sous le sens, ouais. Et après pendant mes études en sociaux, j'ai commencé à aimer écrire et à aimer jouer avec ça, avec le langage. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est une invention formidable, le langage.
Et jouer la comédie, être sous le feu des projecteurs, ça allait de pair avec le goût d'écrire? C'était une évidence?
Ouais, ça l'a pas été tout de suite. Quand j'ai commencé le stand-up avec Jamel il y a une dizaine d'années maintenant, plus longtemps que ça je crois, je me sentais pas légitime justement sur scène, notamment à cause de ça, à cause d'une sorte de manque au niveau.
Oh, vous me faites marrer moi.
Ah bon?
Ouais. Et en fait c'est venu quand même.
Ouais, c'est venu après, mais avec la lecture en fait, il y a eu une espèce de mélange. C'est drôle, c'est drôle.
Bah, écoutez,
mais moi,
c'est votre
je suis très émue
rire,
d'être là parce que je vous écoute très souvent.
Et
non, mais c'est vrai, et c'est toujours très bizarre de rencontrer une voix qui vous est familière depuis longtemps parce que je vous connaissais pas physiquement et je ne pensais pas du tout que vous étiez noire.
Non.
J'étais persuadée que vous étiez asiatique. Mais voilà, ça me fait travailler sur mes préjugés, c'est très bien.
Et chanter, Blanche Gardin, parce que vous chantez dans Problemos, le film d'Éric Judor que vous avez co-scénarisé. Vous chantez une très jolie chanson qu'on aura l'occasion d'écouter plus tard. Oui. C'est votre dada de chanter aussi ?
Non, pas du tout. Si, quand j'étais petite, d'ailleurs, je chantais Carmen. Mais je ne vais pas vous le faire, là. Mais...
pourtant, c'est une émission qui donne la voix aussi aux chanteurs. C'est dommage que vous n'essayiez pas Carmen, là.
Ouais, la prochaine fois, je le chaufferai.
D'accord. Je vous propose qu'on chante tout en innocence, alors, avec les cordettes. C'est l'une de mes chansons préférées qui était dans le film Stand By Me et qui est aussi dans Problemos. Vous la connaissez forcément. 1958, Lollipop, vous êtes sur France Inter avec Blanche Gardin. Vous écoutez Boomerang, mardi matin. C'est-à-dire que c'est l'Immaculée Conception avec sa bouille de dame tartine, vous savez, son minois à confiture, ses yeux bleus pleins de malice, un rien mélancolique, ses cheveux blonds en bataille, comme si elle venait de courir dans les prés. Elle est nature, hein, moins belle de jour que belle des champs, manteau rouge, tout en noir, la comédienne et scénariste Blanche Gardin, invitée de Boomerang ce matin pour son spectacle Je parle toute seule, mais aussi pour un film, Problemos, film dans lequel vous jouez, que vous avez également co-scénarisé. Vous y racontez l'histoire d'un groupe de zadistes, comme ceux qu'on a pu voir occuper le site de Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de Sivens, par exemple, qui lutte, en l'occurrence, dans le film, contre la construction d'un parc aquatique et qui s'oppose plus globalement à la société moderne, qu'il nomme la Grande Babylone. Alors, Babylone, c'est l'insulte suprême dans ce film. C'est le mot-clé pour le comprendre. Ce film, peut-être, il faut nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est Babylone et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour qu'on comprenne. C'est devenu une expression pour nous dans notre équipe, dans Boomerang, on se traite mutuellement de Babylone.
Mais c'est bien, ouais. C'est bien que ça devienne une insulte.
Mais ça veut dire quoi? On n'est pas sûr totalement en même temps du sens.
On n'est pas très sûr parce que ça englobe quand même, dans la comédie, on a fait en sorte que voilà, ça devienne une espèce d'entité voilà, assez floue finalement. Mais bon, Babylone, c'est le monde capitaliste, c'est le mythe libéral, c'est tout ce qui n'est pas les petites fleurs dans les prés, c'est tout ce qui n'est pas bien, dans le sens où c'est un groupe de gens qui veut montrer qu'on peut vivre autrement avec des valeurs plus humaines.
Ça vous arrive d'être Babylone, vous, Blanche Gardin?
Ah bah oui, hein, je suis totalement Babylone. Hein.
Et moi, je peux être Babylone à votre avis? Vous pourriez me traiter de Babylone là maintenant?
Bah, je pense que là, on est complètement Babylone.
Ah,
là,
ouais. C'est vrai?
Oui, c'est ça. Ouais. On est dans le noyau de Babylone.
France Inter serait le noyau de Babylone?
Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment, oui. Oh.
N'empêche, derrière la fable, derrière l'humour, il y a une critique effectivement des dérives de la modernité, de la société de consommation, du système, mais aussi des gens qui se disent anti-système. C'est ça qui m'a frappé, c'est ça qui est drôle dans le film. Je me trompe ?
Oui, bien sûr, c'est aussi de ça qu'on rigole. Alors, bon, d'abord, je tiens à dire que c'est pas un film sur les zadistes, hein, parce qu'on s'est très peu documenté sur le sujet déjà, donc je n'aurais pas, voilà.
Ça préparait le terrain quand même.
Préparait le terrain des assauts zadistes, mais et surtout c'est pas une satire des zadistes eux-mêmes. Hein. Je veux dire, les zadistes sont des gens qui ont des luttes tout à fait légitimes. C'est plutôt une satire de l'humain occidental moderne, dans le sens où même les gens qui luttent effectivement contre le modèle dominant ont intégré eux-mêmes le mythe libéral, justement, et donc ont des cerveaux qui sont formatés à être, voilà, finalement, au plus près de leurs intérêts individuels. Et du coup, voilà, ça peut donner ce que vous allez voir dans...
Oui, et puis vous interrogez aussi des notions très galvaudées qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, comme vivre ensemble ou comme révolution. J'ai l'impression que vous croyez ni à l'un ni à l'autre, quand même, Blanche Gardin, je me trompe?
Ah bah c'est un petit peu difficile effectivement aujourd'hui de croire à... Moi je me rappelle avoir été au tout démarrage de Nuit Debout, la première impression que j'ai eue c'est... Je me suis demandé qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est le début de quelque chose ou la fin de quelque chose? Enfin il y avait quelque chose, il y avait un... Et on ne savait pas si ça allait vraiment faire quelque chose, au sens où effectivement il y a eu une telle disqualification du politique qu'effectivement les Nuits Debout ne voulaient pas de porte-parole, etc. Et je pense qu'il y a un moment où c'est forcément un frein à quelque chose. Quand on veut absolument plus du tout de cadre politique, c'est les intérêts individuels qui vont l'emporter. Et on sait que l'intérêt général, c'est pas l'addition des intérêts individuels.
Pour autant, vous avez un rêve de révolution, vous ?
Bien sûr.
Lequel ?
Bah, je rêverais qu'on change de façon très très profonde la société.
Révolution sexuelle aussi.
Révolution sexuelle aussi, oui, c'est vrai qu'on l'a bien raté celle-là.
Oh.
Bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor ?
Hein ? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc...
Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes ?
Non, j'ai pas dit ça, mais effectivement, c'est plus un problème de femme.
Ah, c'est un problème. Non, alors donc c'est bien que tu restes.
Oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voulais, c'est juste une expression, d'accord.
Je propose qu'on chante.
Ouais. J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume.
Éric Judor et vous, Blanche Gardin, dans Problemos, où vous jouez un personnage qui s'est auto-baptisé Gaïa et que votre co-scénariste appelle la hippie nazie.
Oui.
Oui.
Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est une hippie qui va un peu trop loin.
Vous en connaissez, vous, des Gaïa ?
Oui, bien sûr, j'en ai croisé plein des Gaïa qui sont des nanas très touchantes, d'ailleurs, dans le fond, parce qu'elles croient vraiment qu'on peut, en inversant des modèles, proposer autre chose. Ah bon, alors là, évidemment, c'est dans le registre de la comédie, donc...
Ouais, on a poussé le bouchon un peu loin. Ce qui est intéressant, c'est que Gaïa, elle est féministe, on vient de l'entendre. Et ce que vous dites, non sans malice, à travers ce personnage, mais aussi dans votre spectacle Blanche Gardin, c'est l'omerta sur la sexualité féminine et la violence de la domination masculine qui est intériorisée par les femmes et qui la reproduisent, en fait. C'est quelque chose qui revient sans cesse, je trouve, et dans le film et dans le spectacle.
Bah oui, c'est vrai que je trouve qu'on a une sexualité qui se différencie assez peu de la sexualité des Cro-Magnons, quoi. C'est-à-dire que le désir sexuel n'intervient pas s'il n'y a pas une dose d'humiliation, de domination masculine, pour le coup. Et je trouve ça assez dommage. Bon, et puis voilà, la pornographie et la banalisation de la pornographie n'arrange pas nos affaires, hein. Donc voilà, les petits...
On peut en rire de ça ?
Bien sûr, il faut en rire.
Et qu'est-ce que ça change d'en rire ?
Ah bah ça change, ça met à distance. Et puis moi je suis très très heureuse dans le spectacle quand je raconte ma première sodomie d'entendre des
mon Dieu.
D'entendre des rires mon d'hommes. Je suis ravie parce que c'est bien qu'ils se le prennent à leur tour de cette façon-là.
Oh là là, la question que vous posez c'est aussi celle du formatage des consciences. Du coup vous sentez libre, vous ?
Oui, bien sûr, par rapport à des tas de gens sur la planète, je me sens libre, mais bien empêchée sur plein de tableaux en même temps. Elle est géniale, ma réponse, non ?
Elle est bien. Et je me demande du coup si la scène n'est pas le seul lieu en réalité où on peut se libérer. Parce que c'est ça, en fin de compte, ce que vous racontez.
Oui, c'est un super lieu de libération, effectivement. Je dirais pas que c'est thérapeutique, parce que je pense pas, mais par contre, c'est vrai que c'est un endroit où on peut effectivement... Enfin, disons que on peut dépasser ce qui nous empêche, justement, grâce au biais du personnage aussi. Et c'est très très agréable quand à la fin du spectacle, les gens vous disent ça fait du bien d'entendre ça. On est content que des gens le disent. Alors là, vraiment, ça c'est le plus beau compliment, quoi.
Vous continuerez toujours la scène ?
Je pense que ça y est. Je pense que je sens que j'ai quelque chose à y faire. Pour la première fois de ma vie, je sens que voilà, je suis compétente dans un domaine et ça me fait très plaisir. Et du coup, j'ai très envie de continuer, ouais.
Même si ça cartonne au cinéma, même si on vous fait des propositions mirobolantes aller aux États-Unis, voire en Chine.
Surtout en Chine. Ouais. Ouais. Bon. Non, la scène, c'est un autre métier. C'est totalement différent. Il y a une frustration au cinéma qu'on n'a pas du tout sur scène. Il n'y a aucune frustration sur scène. C'est que de la peur et de l'angoisse. C'est super, la scène.
Comme à tous mes invités, Blanche Gardin, je vous ai demandé de terminer cette émission comme vous le souhaitiez. Vous avez choisi de nous parler d'un humoriste américain qui s'appelle Louis C.K., qu'on vient d'entendre dans un sketch où il parle de son premier voyage en Russie. Il faut nous raconter.
Oui, alors j'adore ce. En fait, c'est pas un bout de spectacle de Louis C.K., c'est un speech qu'il a fait, je sais plus à quelle occasion.
Une remise de prix,
je crois. Remise de prix, ouais. Et où il raconte qu'en fait, en 94, il a un peu marre de tout, il bosse trop pour la télé, il est auteur à l'époque à la télé, et il décide de faire un voyage, et il prend un billet pour Moscou. Et c'est quelques années après la chute du mur. Bon, déjà rien que là, je l'épouse. Il part tout seul comme ça. Il ne connaît pas un mot de russe, évidemment. Il part tout seul à Moscou en 94, et il se retrouve dans Moscou et il erre comme ça, comme une âme en peine. Il peut évidemment, il peut parler avec personne. Donc il est là dans sa chambre d'hôtel. Il découvre le doublage russe, parce qu'à l'époque, effectivement, on laissait les acteurs parler, mais on baissait juste le volume des dialogues, et il y avait un gros russe, un seul russe, hein, qui faisait les dialogues de tout le monde, tout fort en russe, sans mettre aucune intonation. Et donc il découvre voilà l'Union soviétique, enfin la fin de l'Union soviétique, donc, et il tombe dans la rue, dans le métro, sur un violoniste virtuose, avec un attroupement de Russes autour, en train d'écouter le violoniste, et tout le monde pleure autour, et il dit, mais les gens pleuraient comme si c'était normal de pleurer, donc il pleurait, puis il s'essuyait, mais vraiment comme si c'était tout à fait normal de pleurer, et que ça avait absolument aucune incidence sur leur journée. Et et là, il y a un petit groupe de gamins qui débarquent, et les petits gamins des rues, plein de trucs crades sur la gueule, visiblement des gamins qui vivent dans la rue. Et il y a un adulte à côté de lui qui fait signe aux gamins comme ça, et bon, et tout ça, il raconte tout ça en faisant du grommelot pour imiter le russe, quoi, en disant, donc le mec regarde les gamins et fait et les gamins lui répondent comme ça, et ça dure assez longtemps, l'imitation du dialogue en grommelot. C'est très très drôle.
C'est le modèle absolu, Louis
C.K. Ah bah oui, c'est le modèle absolu, c'est le maître, quoi. Et là, donc là, je finis quand même le truc, et donc le mec montre ses chaussures aux gamins, donc il montre que ses chaussures sont divisées en deux, la semelle est décollée, et tend la main vers les gamins, et le gamin qui accepte finalement de donner son tube de colle qu'il avait dans la main, parce qu'en fait les gamins se shootent à la colle dans Moscou, voilà, et dit, et évidemment ce mec-là savait que ces gamins avaient forcément de la colle sur eux, et il dit, je me marre avec le gars, et voilà, et je me rends compte à nouveau que quand les situations sont les plus dramatiques qui soient, il y a toujours moyen de rire et qu'il faut rire.
Merci infiniment, Blanche Gardin, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre spectacle Je parle toute seule est au théâtre de l'Européen jusqu'au 24 juin avant un dernier tour de piste le 29 au Trianon et que Problemos, réalisé par Éric Judor, co-scénarisé avec Noé Debré, sort demain. C'est absolument hilarant. Je le conseille à tous les auditeurs de France Inter. Tout de suite, celle qui ne rigole pas avec les médias, Sonia De Villers et son instant M, juste après ça.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. On ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en est un, l'acier en est un. Chimère courbée plus de 200 fois les chines, bâtie dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain, puis soudain, puis soudain, crac, crac. Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. On ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en est un, l'acier en est un.
Ne me change pas, mes sparrows sur France Inter. Et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia.
Je suis là, Augustin. On se retrouve demain.
Salut ma belle, à demain. Salut.